J'ai déjà entendu l'appel de grâce, notre Seigneur. Il appelle tous, plein de miséricorde, au repas de noces. Oh, écoute l'appel. Prépare-toi. Bientôt le Seigneur revient dans sa gloire. Peut-être qu'il reviendra déjà cette année. C'est pour cette raison, viens déjà maintenant pour aller avec lui au repas des noces. Pour entrer avec lui au repas des noces. Viens, dépêche-toi. Le temps, le jour est proche où les trompettes retentiront. Nettoie ta lampe et achète de l'huile. L'Esprit dit, oui, le Seigneur vient bientôt. Écoute l'appel, prépare-toi. Bientôt le Seigneur vient dans ta gloire. Peut-être qu'il viendra cette année. Alors, lève-toi pour aller pour rentrer avec lui dans le repas des noces. Alors sois semblable aux vierges sages, remplies des pensées d'amour et de sainteté, et veille, attendant jour après jour, jusqu'à ce qu'il nous appelle pour le repas des noces. Oh, écoute l'appel et prépare-toi, bientôt le Seigneur revient. Dans ta gloire, peut-être qu'il reviendra cette année. Alors, prépare-toi pour aller avec lui, pour entrer avec lui dans le repas des noces. En nous, Seigneur, tu as éveillé un désir ardent d'aller vers toi. Et là où il y a encore des tâches et des rites, purifie-nous, nous t'en supplions. Le temps passe très vite. Prépare-toi, nous, Seigneur, pour ta venue glorieuse. Pour que quand tu apparaîtras dans cette année, nous pourrons tous dans la joie et l'allégresse à entrer avec toi dans le dans les noces. Comme déjà tous ont été salués et la venue a été souhaitée à tous, la bienvenue a été souhaitée déjà à tous, et nous sommes venus pas pour écouter un homme, mais pour écouter l'appel. L'appel. Hier, nous l'avons d'une manière particulière entendu, et cela a été souligné, l'appel, mais aussi de sortir, et aussi, justement, c'est ce que le Seigneur a confirmé pour que son nom soit glorifié et loué et exalté. Et ainsi que le Seigneur puisse nous accorder ce matin encore sa grâce pour que nous puissions, cette parole qui nous est apportée, que nous puissions la recevoir en tant que sa parole, la parole de la grâce. Et cet appel de grâce retentit encore aujourd'hui à nous. Et il nous appelle tous pour que nous puissions venir. Nous avons encore la possibilité, le jour de la grâce n'est pas encore passé. Aujourd'hui, nous avons à venir, ou bien alors nous devons venir, nous devrions venir pour qu'il puisse nous conduire et marcher avec nous et nous diriger. Nous savons que le peuple d'Israël a toujours eu fait cette expérience avec le Seigneur, que le Seigneur est fidèle et miséricordieux et plein de bonté, et il est encore jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais, avant la prière commune, encore avant qu'on l'adore et qu'on invoque, je voudrais lire une parole dans Exode chapitre 34, Exode chapitre 34, à partir du verset 10. Ici, il est dit: l'Éternel répondit, voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Et tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Et ensuite il a dit, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Et je crois que cette parole a aussi pour nous aujourd'hui cette valeur. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui, maintenant, pas demain, ou bien alors quelque part dans le futur, mais aujourd'hui, maintenant. Prends garde à ce que je t'ordonne. Prenez garde à ce qu'il nous en donne. Et le Seigneur dit encore au verset 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. C'est ainsi encore pour nous. Si nous prenons garde, chacun pour lui, devant Dieu, à observer ce qu'il nous en donne aujourd'hui, maintenant, et que il écrit cela, il peut écrire cela dans notre cœur, et que nous recevons ces choses. C'est ainsi qu'il a traité alliance avec nous, et cette alliance demeure pour toute éternité. Que le Seigneur puisse nous accorder sa grâce et la force pour que nous puissions nous attacher à ces choses. Nous voulons maintenant nous lever pour encore prier. Père Céleste, nous te remercions pour la grâce et la fidélité. Seigneur, nous te remercions pour l'ordre, pour l'offre que tu nous accordes toujours de nouveau. Nous te disons merci de ce que tu es encore plein de miséricorde et de bonté. En Jésus-Christ, notre Seigneur, tu t'es manifesté et tu as laissé la grâce aller avant le jugement et la miséricorde au-dessus de la condamnation. Seigneur, nous te remercions. Accorde-nous, justement, toi, ta parole, qu'elle puisse, dans notre temps, être la parole qui nous appelle à sortir, qui nous conduit au but. Nous te remercions pour toutes les fidélités et les grâces. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Tout est vrai. Tout est vrai. Notre Seigneur dit, je suis venu pour allumer un feu sur terre. Qu'est-ce que je voudrais de plus que ce feu puisse déjà brûler? Jean-Baptiste disait, je vous baptise d'eau pour la repentance. Celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. C'est ainsi que c'était au commencement et c'est ainsi que cela doit être à la fin. C'est ainsi que cela sera à la fin. Jésus-Christ est réellement le même, le premier et le dernier, tel qu'il était avec les premiers, il doit l'être avec les derniers. Et ce qu'il a fait au commencement, il doit et il va le faire à la fin. Encore une fois, nous vous souhaitons à tous, de tout notre cœur, à tous la bienvenue de tous les peuples, les langues et les nations. De nouveau, il y a eu des appels de Chicago, de l'Afrique et de partout, et tous nous remettent leurs salutations et nous aussi nous saluons tous. Très particulièrement, je voudrais saluer mon ami que j'ai depuis plus de 40 ans plus vu, qui est assis ici au deuxième rang. Je voudrais le saluer. Que Dieu vous bénisse parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas, est-ce que vous voudriez être nommé par vos noms, par votre nom? C'est simplement merveilleux. Et nous pensons à la parole du Seigneur. Reconnaissez que le Seigneur conduit ses saints d'une manière merveilleuse. Et à la fin des temps, il appelle les derniers à sortir. Sans considérer où est-ce qu'ils habitent, il sait où est-ce qu'ils habitent. Et il les appelle à sortir. Nous avons, dans le dernier cantique que nous avons chanté ensemble, chanté, avez-vous entendu le cri, l'appel de grâce? Et ensuite, nous avons aussi chanté, peut-être qu'il reviendra déjà cette année. C'est peut-être raison, lève-toi et prépare-toi pour entrer avec lui au repas des noces. Et cette pensée m'est venue, combien d'années cela a dû durer, alors que cet homme ou bien cette femme, qui est-ce que c'est, ont fait ce cantique. Les attentes étaient réellement réelles parmi les croyants depuis l'église primitive, car dans Apocalypse, le chapitre 22, notre Seigneur lui-même dit, voici, je reviens bientôt et ma rémunération est avec moi. C'est ainsi que 2000 années sont passées. Et nous pouvons dire à 100% que nous pouvons nous attendre à 100% que le Seigneur revient dans notre temps. Personne connaît le jour et l'heure, mais ça, nous avons compris que nous vivons réellement à la fin des temps et que nous sommes arrivés à la fin des temps. S'il vous plaît, prenez la parole au sérieux, croyez la parole, car c'est seulement celui qui réellement, de tout son cœur, croit la parole. C'est à lui que par l'Esprit, elle lui sera révélée. Celui qui ne croit pas la parole, à lui, Dieu ne peut pas parler. Et si Dieu ne peut pas parler avec nous, et que nous ne recevons pas sa parole, comment est-ce que alors elle pourra nous être révélée? Je vois ici encore des amis et de partout.
Oui, de toute l'Europe, encore des amis ici, nous sommes rassemblés, c'est merveilleux. Nous avons écouté la parole d'Exode, une parole merveilleuse, une parole merveilleuse. Voici, je tresse une alliance avec toi et avec tout le peuple. Et je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. C'est une promesse que Dieu a accomplie depuis le commencement déjà. Et ensuite, il est écrit dans Exode chapitre 34, verset 10, tout le peuple qui t'environne fera l'œuvre de l'Éternel. Et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Quelle parole de Dieu! Nous pourrions, avec cette expression traiter alliance, continuer, alors que notre Seigneur, lors du dernier souper, disait ceci est la nouvelle alliance dans mon sang. Le Nouveau Testament a été scellé par le sang et comme confirmé par le sang et comme dans le domaine terrestre, des hommes font une alliance, un testament, et que c'est ainsi que le testament rentre en vigueur par la mort du testateur. C'est ainsi que le Seigneur a fait une nouvelle alliance, un nouveau testament, et avec son peuple, et avec sa mort, tout est transmis aux héritiers. Et c'est ainsi que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Mais il faut être né du testateur pour être héritier. Et ça, c'est une réalité divine. Et c'est ainsi que si nous croyons ces choses, c'est ainsi qu'elles nous seront révélées en toi et en moi, et que ça deviendra une expérience personnelle. Bien, mes frères et sœurs, si dans le prophète Daniel, au chapitre 12, au verset 4, il est écrit celles les paroles et celles les jusqu'à la fin. Alors, jusqu'à la fin des temps, ça veut dire que Dieu, pour la fin des temps, a réservé, avait quelque chose de très particulier à faire, pas pour les âges entre-temps, mais pour la fin des temps. Et c'est pour cette raison que l'insistance, l'importance est contenue à ce qu'il y a deux âges, apses de temps prophétiques. Le premier apse de temps était autrefois lors de la première venue de notre Seigneur, où des prophéties bibliques avaient trouvé leur accomplissement, où Dieu avait accompli ses promesses. Et maintenant, à la fin de la fin des temps, c'est aussi la même chose. Un âge prophétique. Et c'est peut-être raison que Dieu a fait luire la parole prophétique à éclaircir la parole prophétique pour nous la révéler. Il faut que je dise encore que je me suis réellement réjoui alors que j'entendais que hier, pendant notre réunion ici, un arc-en-ciel puissant était sur toute la maison dehors. Un arc-en-ciel énorme avec toutes les sept couleurs et cela d'une manière très forte, très proche et très puissant. Quelques-uns l'ont vu et se sont réjouis et en ont rendu le témoignage. Je me demande, est-ce que Dieu veut vous dire avec cela, vous êtes mon peuple, j'ai traité alliance avec vous. Vous êtes le peuple de la nouvelle alliance. Vous m'appartenez. Vous croyez ce que j'ai dit dans la parole. Nous ne mettons pas la grande importance dans des choses extérieures. Mais c'est déjà merveilleux, n'est-ce pas, quand le ciel descend, se penche sur terre et que Dieu est présent. Vous savez, dans les jours de Noé, Dieu le Seigneur avait de la même manière mis l'archange dans le ciel et avait dit, je traite alliance, une alliance avec toi et avec ta descendance, ta semence, d'une manière pour montrer visiblement que je ne vais plus jamais détruire par un déluge la terre. Et si nous allons dans Apocalypse, le chapitre 10, nous voyons que quand le Seigneur se révélera au peuple d'Israël en tant que ange de l'Alliance, alors l'arc-en-ciel est sur sa tête. Tout dans les Saintes Écritures a sa signification, a sa place, et nous nous réjouissons simplement de cela. Si en cet endroit nous mentionnons Israël et ce qui se passe là-bas et nous fixons un regard vers Rome, alors c'est pas parce que nous le voulons et encore moins pour vous remplir le temps, non, mais si les Saintes Écritures annoncent des choses à l'avance, alors c'est notre obligation d'ouvrir les yeux et de voir comment est-ce que tout est en train de se dérouler, de s'accomplir. Il y a réellement deux sortes d'unions. L'une est sous Rome, où toutes les religions et toutes les confessions, où tout le monde entier est uni sous une seule tête, et cette tête, ce chef, est déjà aujourd'hui président d'État, chef d'État et chef d'Église, et deviendra donc le chef, la tête de toute cette constellation sur cette terre. Et l'autre tête, l'autre chef, c'est Jésus-Christ. La tête, le chef de la véritable Église, et de lui et de sa bouche sortent les paroles « Père, toi en moi et moi en eux pour qu'ils soient un ». Pas une union politique mélangée avec de la religion, mais Dieu en Christ et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça, c'est l'union divine. Je me suis permis d'écrire les choses suivantes. Je ne veux plus insister sur les autres choses ou bien faire mention de cela. Mais en pensant, il y a quelque chose qui m'a accordé. En pensant à cela, je vous donne cela comme information. Rome le 13 mai 2005. Jeudi, le 13 mai 2005, le pape Benoît le 16 a, en tant que préfet de la congrégation de foi, a désigné celui qui va le précéder. C'est l'ex-évêque de San Francisco aux États-Unis, appelé William Joseph Evada. Et avec cela, déjà les décisions peuvent être préparées pour le prochain pape. Jeffersonville, le 19 décembre 1954. Beaucoup, beaucoup d'années sont passées depuis 1954. Encore une fois, le 19 1954. Citation de Frère Branham maintenant. Je crois que en l'un de ces jours merveilleux, quand l'union des églises dans le Conseil mondial des églises aura lieu et que le nouveau pape, selon la prophétie, viendra des États-Unis et là-bas sera établi, c'est ainsi que, à ce moment-là, l'image de la bête sera formée. Et je vous le dis, alors la véritable Église de Dieu sera joint ensemble et uni, et tous les véritables croyants, des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des pentecôtistes et des de la main de la sainteté, et tout ce qu'ils pourront être, tous vont sortir, se retrouver et s'unir dans l'amour de Dieu et être affermis dans la foi et revenir à la parole de Dieu. C'est ainsi que de tous les croyants, le corps de Jésus-Christ sera formé. Je ne veux pas aujourd'hui dire plus là-dessus. Ce sont toujours de nouveau des articles et des citations de frère Branham qui me touchent le cœur, qui me donnent une orientation. Et il y a aussi, comme déjà hier soir, nous l'avons dit avec insistance, tel que Luc, dans son introduction, l'a écrit. Alors nous sondons aussi les Écritures. Nous revenons à la parole. Nous sondons les Écritures dans l'Ancien et le Nouveau Testament pour ici, de la part de Dieu lui-même, recevoir l'orientation, pas ce que nous interprétons, mais ce que Dieu, par sa parole, directement a à nous dire. Éphésiens, le chapitre 4, nous dit ici, et ça nous le recevons en tant que, ainsi dit le Seigneur, pour l'Église, car tel que nous avons lu dans Exode, au verset 10 du chapitre 34, Éphésiens 3, verset 10, montre aussi ce que Dieu s'est proposé de faire avec l'Église. Et ici dans Éphésiens chapitre 4, au verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par tous et en tous. Par tous et en tous. Chacun individuellement, chacun de nous. Donc ici il est dit, mais à chacun de nous, la grâce, le verset 7, a été donnée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a émené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Lui qui a dit, il m'a été donné tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Et après cela, il a donné l'ordre missionnaire. C'est pour cette raison, puisque il m'a, moi le Seigneur, il m'a été donné tout pouvoir sur la terre comme au ciel. C'est pour cette raison, à cause de cela, allez dans le monde entier, puisqu'il m'a été donné tout pouvoir, allez et enseignez tous les peuples. Cela est à lire dans Matthieu 28, à partir du verset 18. Nous continuons à lire ici dans Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Croyons-nous cela? Est-ce que cela est vrai? C'est lui qui l'a fait. Et il les a établis, il a établi les différents ministères dans l'Église. La question est à poser, pour quelle raison? Le verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'Église et de l'édification du corps de Christ. Ensuite, suit l'objectif direct, le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi
et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est l'objectif de l'Église du Nouveau Testament. La stature parfaite du Christ dans le domaine spirituel atteint cette mesure-là de la stature, et que ce ne soit pas que nous restions des enfants qui sont ballottés par tout vent de doctrine, mais que nous puissions, comme il est écrit dans Hébreux 13, verset 9, être affermis dans notre cœur ce qui se passe par la grâce. Hébreux 13, verset 9. Ensuite, nous continuons à lire ici dans Éphésiens 4, au verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Verset 14. Ici, nous avons l'expression séduction. Celui qui va dans Matthieu 24, au verset 14, là dit notre Seigneur, ne vous laissez pas séduire. Celui qui va au verset 11, celui qui va au verset 24 de Matthieu 24, ressent le sérieux de l'avertissement et de l'exhortation. Que la séduction à la fin sera si grave que seulement les élus trouveront vraiment de la grâce devant Dieu et ne seront pas séduits. Et pourquoi pas? Parce qu'ils demeurent dans la parole de Dieu et posent toujours la question, que dit les Écritures? Ça, nous devons le faire. C'est à cela que nous avons été devant Dieu déterminés et c'est à cela que nous sommes obligés devant Dieu. C'est notre responsabilité. Ici, nous avons dans Éphésiens 4 le modèle de l'Église du Nouveau Testament. Et à ce modèle, nous devons revenir et nous allons être ramenés. Car quand Dieu envoie un prophète, c'est justement toujours pour rétablir toute chose dans l'état primitif voulu de Dieu. Mais alors, il est toujours nécessaire que ce soit l'œuvre du Saint-Esprit par laquelle l'Esprit est rendu capable et est perfectionné à marcher dans le chemin qui a été ouvert dans la foi et l'obéissance pour corriger ce qui a été corrigé dans le message, pour ainsi revenir par la correction à l'unité de Dieu. J'ai lu un livre, seulement les 28 pages, et donc un peu, les 28 pages un peu plus exactes qui me concernent. Mais ici, il y a des gens qui parlent du sept tonnerres. Et ces gens qui ont cette interprétation attaquent d'autres dans les sept tonnerres qui ont une autre interprétation. Mais si tout ce livre, tout cela n'était pas à pleurer, alors on devrait vraiment rire. Mais ce n'est pas à rire. Et pourquoi est-ce que cela se passe? Parce que des hommes ont perdu le respect devant la parole de Dieu. En cet endroit, jusqu'à la fin, nous allons insister et dire que la parole de Dieu est notre absolu, est devenue notre absolu et demeurera dans toute éternité notre absolu. Ce que la parole de Dieu n'enseigne pas, nous n'allons pas l'enseigner. Et où la parole de Dieu se tait, nous allons nous taire. Et là où la parole de Dieu parle, nous allons parler. Et ça, c'est la différence entre ceux qui ont été établis par Dieu et ont un ministère de Dieu pour l'Église. Et chaque vrai enseignement unit le peuple avec Dieu et nous unit les uns avec les autres. Chaque interprétation et chaque opinion humaine déchire, divise, apporte des séparations dans l'Église. Et ça, nous avons eu toujours de nouveau à l'expérimenter. Je le répète encore une fois, si Christ est le chef, est la tête, et que c'est lui qui, dans l'Église, a établi les ministères, alors, c'est pour justement rétablir l'ordre de Dieu, pour que tous les membres du corps de Jésus-Christ puissent former une union divine et être joints ensemble. Et c'est ainsi que celui qui demeure dans l'enseignement du Christ et des apôtres, il ne va jamais, jamais, jamais comme ça être ballotté de droite et à gauche par toutes ces différentes doctrines. Donc l'ordre de Dieu consiste réellement à ce que ce ne soit pas seulement qu'un ministère prophétique de caractère lié à l'histoire du salut avait été promis et s'est déroulé, ou bien s'est déroulé, oui, mais aussi que l'ordre de Dieu, maintenant, dans l'Église, qui a écouté le message de Dieu, soit rétabli. Et c'est pour cette raison que les ministères dans l'Église doit exister. C'est pour cette raison justement, à cause de l'ordre de Dieu, que le ministère doit exister dans l'Église. Je vous ai dit, il n'a pas été dit, je vous envoie un prophète et que par lui, tout dans l'Église sera de nouveau, va de nouveau se passer. Ou bien est-ce que Dieu a envoyé un prophète pour que justement, par les ministères, dans l'Église, puisse s'accomplir ce que Dieu s'est proposé de faire? Dites-moi, quel est l'ordre de Dieu? Quel est l'ordre de Dieu? Et si ensuite, il y a des frères qui toujours sont en train de regarder à 40 ans en arrière et de parler de ce qui s'est passé il y a 50 ans en arrière et de ce que Dieu a fait autrefois. Bien-aimés frères et sœurs, ce que Dieu a fait autrefois, moi, je l'ai vu encore plus que tous les frères qui aujourd'hui, quelque part, disent quelque chose. Mais ce que autrefois j'ai vu et j'ai entendu m'a ouvert les yeux pour ce que Dieu s'est proposé de faire et Dieu a promis pour maintenant cette époque dans laquelle nous vivons est fait par sa grâce maintenant. Et ça, nous avons aussi souvent eu à le dire. De regarder dans le passé, ça a seulement une valeur et une importance si nous avons la vue pour le présent et aussi pour le futur, par la grâce de Dieu. Si en regardant le passé, nous recevons la vue pour le présent et le futur. Donc, le but n'est pas seulement de dire, Dieu a envoyé et a promis un prophète, et il a envoyé. Il s'agit de l'appel à sortir, et de la préparation de l'Église, jusqu'à même l'accomplissement où il est dit d'être rempli de la puissance d'en haut jusqu'à être scellé du Saint-Esprit après que nous ayons cru et reçu la parole de la vérité. Comme c'est écrit dans Éphésiens 1, verset 13. Avant cela, l'enlèvement ne pourra pas avoir lieu. Car c'est ainsi que c'est écrit que nous avons été scellés jusqu'au jour de la délivrance de notre corps. Cela est appelé la rédemption. Nous ne sommes pas comme ça en souci pour tous ceux qui se sont déjà endormis en Christ. Pour eux, Dieu déjà a pris soin de tout. Nos soucis sont dirigés vers ceux qui vivent encore. Car d'une manière tout à fait automatique, cela va se passer. Que ceux qui se sont endormis en Christ vont premièrement ressusciter. Mais ensuite, il faut que cela s'accomplisse. Que nous qui sommes restés vivants, que nous soyons transformés. Mais alors arrive le verset de Romains chapitre 8, au verset 11. Si la puissance, ou bien Éphésiens 1, verset 19 et 20. Si la puissance, qui a, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ dans tes morts habite dans vos corps mortels, dans vos corps, dans vos cœurs. Alors, c'est-à-dire que vos corps mortels seront transformés par l'esprit. Par quoi? Par l'esprit qui habite en vous, habite. Ça, c'est une parole adressée aux vivants. Restez vivants, à nous, dans ce temps. Et ça ne suffit pas non plus que nous puissions chanter, peut-être, qu'il revient cette année. Nous ne savons pas. Mais il faut que cela soit un sérieux saint en nous. Réellement, un saint sérieux en nous. Que réellement, ce ne soit pas seulement que nous ayons reçu l'orientation prophétique sur, en général, le déroulement de la fin des temps et tous les événements qui auront lieu et qui ont lieu, mais que nous puissions maintenant être introduits dans l'histoire du salut qui est déterminée directement pour l'Église. Que tous, intérieurement, de tout notre cœur, nous puissions suivre la prédication et en même temps prier dans la prière, en priant, entendre, écouter la parole et dire, Seigneur, que ce que je viens d'écouter, que cela ait lieu, que cela s'accomplisse, confirme ta parole. Que nous puissions expérimenter tel que nous avons entendu ta parole. Nous voulons revenir dans cette parole d'Exode. Je ferai des prodiges parmi vous qui n'ont jamais eu lieu auparavant. Et cela, nous pouvons penser à Éphésiens 3 au verset 10 ici. Parmi le peuple parmi lequel vous habitez. Bien mes frères et sœurs, Dieu s'est proposé de faire de grandes choses. Ça nous fait penser à Éphésiens 3 verset 10 et du temps de Gédéon aussi, du temps de Gédéon. Il a dit, si Dieu est avec nous, où sont alors tous les miracles desquels nous avons entendu parler alors qu'il avait fait sortir nos pères d'Égypte? Nous avons besoin de la présence de Dieu dans l'Église. Et l'accès est dans la foi. Seulement le chemin de la foi est sûr et l'adversaire ne peut pas l'atteindre. Nous sommes simplement très reconnaissant à Dieu pour les témoignages que nous avons entendus, oui, dans les derniers temps, oui, dans les dernières semaines, dans les derniers jours. Je ne sais pas si les frères et sœurs le souhaitent, mais ils sont assis ici et tout à fait devant, où Dieu, après plusieurs opérations à cause d'un cancer, où plus rien ne fonctionnait, plusieurs opérations de cancer, où plus rien ne fonctionnait dans leur corps. Et voilà que le Seigneur a guéri. Dieu confirme sa parole. Mais ici est le point important. Il faut que ce soit la foi personnelle et d'invoquer personnellement, d'appeler, de crier personnellement. Ce n'est pas toujours que d'autres prient pour d'autres. Si vraiment il s'agit de la vie ou de la mort, il faut que ce soit la personne elle-même qui invoque le Seigneur, qui crie au Seigneur. C'est la même chose aussi avec la prière pour les malades. Si quelqu'un parmi vous est malade, alors qu'il puisse appeler les anciens, pas d'autres à sa place, mais que ce soit lui-même qui appelle les anciens pour qu'ils puissent prier pour lui, sur lui, et le oindre d'huile. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a un ordre dans sa parole et il a un ordre dans l'Église et aussi les ministères d'enseignement et de docteurs sont importants pour que nous soyons affermis de manière biblique dans la parole de Dieu. Et ça a toujours été ainsi. Quand la parole de Dieu a été mise en pratique, c'est ainsi que Dieu pouvait bénir son peuple. Alors, des miracles et des signes et des prodiges s'accomplissaient. Quand le peuple de Dieu prenait garde à ce que Dieu lui ordonnait, car quand il était désobéissant, rien ne se passait, jusqu'à que, une fois pour toutes, le Seigneur était obligé de leur dire, « Puisque vous servez d'autres dieux et que vous ne me servez pas, alors je dois vous m'obliger à vous éparpiller dans toutes ces différentes nations desquelles vous servez ces dieux. » Alors allez le faire là-bas. C'est ainsi que l'éparpillement du peuple d'Israël a eu lieu sous dans toute nation. Et ça a été, mais ça a été la raison de cet éparpillement. Et si dans cet endroit nous insistons en disant que Dieu, à la fin du temps de la grâce, n'a pas seulement ici dans Éphésiens 4 verset 5 laisse dire un Seigneur, une seule fois, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Père, au-dessus de tous, par tous et en tous. Alors, ça c'était nécessaire. Si cette écriture-là est écrite, ça veut dire que c'est nécessaire que par la prédication de la parole de Dieu, que nous puissions comprendre que vraiment cette vérité soit placée sous le sang, que Dieu est seulement un seul. Il n'est pas constitué de trois personnes. Il est constitué d'une seule personne. Il est seul. Il est une seule personne. Dieu est une seule personne. Et nous n'avons pas besoin d'interpréter cela, mais d'accepter la parole telle qu'elle est écrite et telle qu'elle nous a été transmise. Qu'est-ce que nous devons faire? Et la question, et je vous pose ici à tous cette question et aujourd'hui, est-ce que tous dans les églises dénominationnelles libres ne sont pas tous dans l'éparpillement? N'ont-ils été jetés tous dans l'éparpillement? Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté la doctrine de la Trinité. Eux-mêmes, ils sont dans la confusion et ils ont confus d'autres et apporter d'autres et conserver d'autres dans la confusion. Mais maintenant, le temps est arrivé où nous devons appeler à sortir et dire, vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. À quoi est-ce que ça sert à toutes ces communautés-là? Aujourd'hui, encore, je l'ai lu, j'ai apporté aussi le gros catéchisme, le livre de catéchisme encore. À quoi est-ce que tout cela sert à tous ces gens dans toutes ces différentes les églises protestantes, si par exemple ils récitent la confession de foi qui est écrite dans ce livre de catéchisme de l'église catholique, ils disent nous croyons à une sainte église catholique. Oui, mais ça ils le disent, ils le répètent dans toutes les églises méthodistes, baptistes et partout dans le monde entier. Cela est répété et est accepté comme profession de foi. Confession de foi. Non, notre confession de foi est ici la Bible, pas ce qui est déclaré et formulé en tant que confession de foi. Et seulement pour votre orientation, on ne veut même pas venir à parler de cela. Mais regardez par exemple ici de loin, la première confession de foi est ici écrite à gauche. Et regardez comment est-ce que la première confession de foi est courte en comparaison avec la prochaine confession de foi. L'une est de Nicée, l'autre est de Chalcédoine. Une très courte et l'autre très longue. Ici, cela est écrit dans leur propre livre. L'une est appelée confession de foi apostolique et l'autre est appelée confession de foi de Nicée Constantinople. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec Nicée ou bien Constantinople? Moi, j'ai prêché dans cette ville à Constantinople, dans la plus grande église là-bas qui existe. Vous savez quelle est cette ville? Qui sait? Comment ça s'appelle cette ville aujourd'hui? Istanbul. L'ex-Constantinople est l'actuel Istanbul. C'est là-bas que nous avons avec Frère Menez dans la plus grande église orthodoxe prêché. Et il y avait eu des hommes, des émigrés de tous les états arabes qui étaient venus pour écouter la parole. Si aujourd'hui je dis cela de cette manière ici, alors je le dis avec une douleur intérieure, sortant d'une douleur intérieure. Nous n'avons rien contre ces hommes précieux qui sont dans toutes les religions et les confessions éparpillées. Nous avons seulement quelque chose contre le fait qu'ils sont conservés dans l'erreur et sont trompés et mentis depuis leur naissance jusqu'à leur mort. C'est pour cette raison que Dieu a laisser une parole sortir pour que tous puissent entendre la parole de l'heure. Et ça aussi, nous avons entendu cela la parole aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur d'appeler à sortir. C'est simplement important, car seulement les appelés à sortir vont se soumettre, ceux qui sont sortis vont pouvoir se soumettre sous la parole. C'est seulement eux-là qui vont permettre à l'Esprit de Dieu de faire son œuvre en eux et de leur accorder l'obéissance qui a lieu jusqu'à l'achèvement de son œuvre. Et tous nous avons lu que nous sommes appelés à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Les deux choses sont vraies. Dans Éphésiens 4, nous avons donc la description dans son détail. Et je voudrais ici pas seulement parler du but, mais de montrer la description pour arriver au but. Et je voudrais vous représenter cela devant les yeux. Dans Éphésiens 5, et n'oublions pas que Éphésiens 3, verset 10, est comparable avec Exode 34, verset 10, où Dieu a proposé de faire de grandes choses par son peuple autrefois et aujourd'hui par l'Église. Et ici dans Éphésiens 5, au verset 27, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Pour faire, au verset 26 d'abord, afin de la sanctifier et la purifier en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Avez-vous déjà constaté ici comment et où est-ce que ces deux versets-là, si importants, ont leur place, sont placés? Il faut toujours lire dans quel contexte le verset est écrit. Et il faut toujours lire avant ce qui est écrit, avant, et si possible, lire aussi ce qui est écrit après. Quand on lit quelque chose, il faut toujours savoir où est-ce que c'est écrit, dans quel contexte cela est à considérer. C'est le contexte qui nous montre le chemin, la description pour atteindre et vivre cela. Au verset 21, Éphésiens 5, vous soumettez-vous les uns aux autres comme la crainte de Christ l'exige. L'ordre de Dieu doit simplement, d'une manière nouvelle, être rétabli et entrer en vigueur, être valable. Et je le dis sincèrement, tous les autres vont se moquer de ce que nous lisons. Vont se moquer, vont rire. Ils vont rire et ils vont comme ça, eux vivre sans s'occuper de cela. Ils vont dire, mais ça c'est une parole qui avait sa valeur pour il y a 2000 ans d'ici, mais plus aujourd'hui. Or, nous avons lu dans Exode 34, prends garde à ce que je te dis aujourd'hui. Mais l'Église du Dieu vivant a de la crainte. Elle prend garde à ce que Dieu lui ordonne aujourd'hui pour chaque parole de Dieu. Et ici, il est écrit, verset 22, « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. » Oui. Bien-aimée sœur en Christ, si vous voulez expérimenter l'achèvement de l'œuvre de Dieu, selon Éphésiens chapitre 5, le verset 27, si vous voulez paraître devant lui et glorieux, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, devant l'époux, alors s'il vous plaît, que cette parole entre dans votre cœur et mettez-la en pratique de toute la joie de votre cœur et sans sentir une obligation. Au verset 23, il est écrit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Comme lors de ma visite à Jeffersonville, dans le siège, dans le quartier général de Wells and Walt, il m'a été dit là-bas, frère Frank, une femme qui quitte son mari est une femme sans tête. Et elle a perdu l'orientation. Il faut que cela soit dit clairement que l'ordre divin est l'ordre pour l'Église, pour le couple et pour la famille. Celui qui sort de cet ordre, quoi qu'il soit croyant, il faut qu'il puisse se poser la question, est-ce que de la repentance n'est pas importante de la part de Dieu? Comme il est écrit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 10, qu'il attend cela. Ensuite ici, verset 24, « Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Oui. Et qu'est-ce qui se passe alors? Si la femme te dit, « Oh, ça tuerait, n'est-ce pas ?» Et si ensuite elle dit, « Je ne pense même pas à le faire. » Et si ensuite elle dit, « Vous pouvez dire là-bas, devant la chair, ce que vous voulez dire. Moi, ici, c'est moi qui ai quelque chose à dire ici. » Et sans arrêter, comme ça, continuant à dire de telles choses, et sans prêter garde à ce que Dieu a à lui dire, mais elle-même, comme ça, se rendre indépendante, et dire comme ça ce qu'elle a à dire, sans être attentif, que en fait, elle n'a rien à dire. C'est Dieu qui a quelque chose à dire, sinon personne d'autre. Et c'est Dieu qui dit à l'homme ce qu'il veut lui dire, et c'est Dieu qui dit à la femme ce qu'il veut, ce qu'il a à lui dire. Et si tous se soumettent et respectent cela, c'est ainsi que s'accomplira tout tel que Dieu dans sa parole, dans Exode 34, verset 10 et Éphésiens 3, verset 10, l'a ordonné. Mais il dit, si tu prends garde à ce que je te donne aujourd'hui. Ensuite dans Éphésiens 5 ici, ensuite, au verset Marie, ça complique cela ici. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Pas seulement aimer sa femme, mais comme. Ici, il y a un modèle, comme c'est écrit dans Éphésiens 5 et dans Romains 15, il y a un modèle qu'elle demande aux yeux. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Donc, hommes et femmes sont adressés ici. Et s'il vous plaît, c'est en relation, s'il vous plaît, avec l'achèvement de l'Église. L'achèvement est déclaré ici dans le verset 27. Pour laquelle il a livré son corps. Colossiens 1, verset 21 à 23. Il faut comprendre qu'il a livré son corps pour que justement nous pourrons paraître devant lui en tant qu'Église glorieuse, sans tache, ni rime, ni rien, semblable, irréprochable devant le trône de Dieu. C'est pour ça qu'il a livré son corps. Le mot livrer son corps est important. Colossiens 1, verset 21 à 23. Donc, toute désobéissance est contre le sacrifice de Jésus-Christ. Est-ce que l'un voudrait continuer encore à enseigner l'autre? Est-ce que c'est l'un qui doit dire à l'autre ce qu'il doit faire? Non. C'est Dieu qui parle avec chacun de nous tous, à moi et à toi. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit à la repentance et nous conduit dans toute la vérité. Comme c'est écrit aussi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13 au verset 15. Ici aussi, le chemin nous est décrit pour la gloire. Et ensuite, c'est de cette manière, pas d'une autre manière, si tout cela est ordonné dans les couples, mari, femme, à la maison, si la femme a sa place et les maris ont leur place, si Christ peut être le chef de l'Église et le chef du mari, comme il est écrit ici au verset 27, pour faire de cette manière-là, pour faire de cette manière-là paraître devant lui cette Église glorieuse. C'est-à-dire, c'est tout ce qui a été mentionné à partir du verset 21 de Éphésiens 5 jusqu'au verset 25. S'accomplit. Alors c'est ainsi que de cette manière il pourra faire paraître cette Église sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, glorieuse devant lui. Encore une fois que cela soit dit. Alléluia. Le monde, aussi le monde religieux, ne va jamais se soumettre et désirer ces choses et prendre garde à ces choses. Ils vont continuer à vivre dans leur propre chemin. Mais ce sont des choses, nous devons prendre garde, ce sont des choses que Dieu nous ordonne aujourd'hui. Que celui qui est de Dieu, que ce soit homme ou femme, en lui la semence incorruptible de la parole habite, et la semence incorruptible de la parole de Dieu, c'est la semence, c'est la parole de Dieu. Et si cette semence est reçue dans la douceur, dans notre cœur, elle produira de son fruit, et elle produira selon son espèce. Oh, Jacques 1, verset 19. Nous pourrons dire beaucoup de choses ici. Ça ne sert à personne de chanter « Bientôt le Seigneur revient, Alléluia !» Et ensuite, avec des trompettes même et toutes sortes de choses, de ne pas prendre part à ce que Dieu maintenant ordonne à l'Église et ne prend pas garde à ça. Avez-vous su que il y a seulement deux événements de sorte surnaturelle, où la nuée surnaturelle a apparu dans le ministère de Frère Branham. Avez-vous su cela, qu'il y a eu deux événements surnaturels? Le premier, c'était avant l'ouverture des sceaux, le 28 février 1962, alors que le Seigneur, dans la nuée surnaturelle, 28 février 1963, pardon, alors que le Seigneur, alors que cette nuée surnaturelle, ce nuage a été photographié, et que le docteur Jack McDonald à l'université à Tucson avait été envoyé à Tucson pour examiner ce que a signifié cette photo, c'est-à-dire ce nuage surnaturel qui était à 26 km de la Terre, au-dessus de la Terre, mais qui est descendu. Et Frère Branham a dit, j'ai été enlevé dans ce nuage. Et là-bas, il m'a été dit que le temps d'ouvrir les sept sceaux est venu. Le deuxième événement a été alors que Frère Branham était en train de parler de ce chapitre très difficile, mariage et divorce. Et cela s'est passé que les écoliers même des classes avec leurs enseignants sont sortis, avec leurs maîtres sont sortis. Et le fils de la famille Evans. Et ils ont dit, écoutez, l'enseignante nous a fait sortir et nous avons vu la lumière, la colonne de feu. Et le jeune était à l'époque encore très très naïf et petit. Et il a dit, maman, est-ce que ça pourrait être possible que là où il y a cette lumière-là, Frère Branham se trouve, là où il y a ce nuage-là sur le naturel qui est descendu? Oui, Frère Branham était justement là-bas. Et c'est là qu'il lui a été révélé ce qui est contenu dans la prédication, mariage et divorce. Nous devons simplement savoir que Dieu nous a envoyé un message avec tous les sujets, avec toutes les explications, de A à Z, tout ce que nous devons savoir en tant qu'Église du Dieu vivant, et pas seulement pour accumuler notre savoir et notre connaissance, mais pour que notre vie, par la grâce de Dieu, soit en accord avec la parole de Dieu, et que nous puissions apparaître devant lui irréprochables, lavés dans le sang de l'agneau, si réellement tu crois, selon Colossiens 1, qu'il a livré son corps pour cela, au verset 21, au verset 23, alors tu mettras en pratique ces choses. Et il est écrit ici, et sanctifié dans la parole de la vérité, par l'esprit de la vérité. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole de la vérité. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13 et 25. Fais le chemin par l'obéissance et par la sanctification de l'esprit. Tous ceux qui sont de Dieu ne discutent pas, ils vont en paix et marchent avec leur Dieu. Et disent dans leur cœur et l'expriment par leur bouche. Ô Seigneur, aide-moi à mettre ta parole en pratique, à vivre dans les saintes écritures en toutes choses. Et c'est seulement comme ça que la restauration de toutes choses sera possible et que tu rétabliras toutes choses. C'est seulement comme ça que nous avons la garantie que nous prendrons part à l'enlèvement. Ne croyez pas que quelqu'un de quelqu'un comme ça ou bien d'autres pourront dire, oh, ce qui dit là, cela ne m'intéresse pas du tout, ne me dérange pas. Et ensuite, penser être auprès du Seigneur sans être dérangé comme ça? Non, cela n'existe pas. Pas devant Dieu. La foi, l'obéissance de la foi, est l'unique chemin qui nous amène au but. Tout le reste, c'est de l'imagination. Et on peut, comme déjà je le disais, chanter « Bientôt le Seigneur revient, Alléluia !» Mais, et pas en basseur, on peut comme ça prendre la parole de 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14. On peut l'entendre 100 fois. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Mais la question est à poser. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, de ce que les Écritures disent, de sortir de tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu et la parole de Dieu pour que l'époux et l'épouse, avant le retour de Jésus-Christ, déjà, soient dans la parole et l'esprit sous le sang de la nouvelle alliance, unis ensemble. Et l'obéissance de l'église épouse devienne manifestée comme était celle de l'époux. Son obéissance a été manifestée et il était obéissant jusqu'à la mort, à la croix. Tout doit devenir comme lui. Donc, pas seulement un message de la fin des temps, mais le message divin qui inclut tout, qui a inclus tout. Chaque domaine de notre vie est inclus dans ce message de Dieu. C'est pour cette raison qu'il est divin message qui nous a été transmis. Et c'est seulement par lui que nous pourrons ôter du chemin du Seigneur tout obstacle. Et c'est seulement comme ça qu'il pourra marcher et habiter et vivre parmi nous et que sa puissance sera manifestée et sa sagesse multiple par l'Église. Comme c'est écrit dans Éphésiens 3, verset 10, et tel que nous avons lu dans Exode 34, verset 10, il fera des choses qu'il n'a encore jamais fait sur terre. Jamais fait sur terre. Nous avons vu en ce que Frère Branham disait, que le temps viendra où l'Église sera unie, sera joint ensemble, où réellement ce sera une seule foi, un seul baptême, un Seigneur, le Seigneur de l'Église. Encore rapidement, cette pensée dans la parole en ce qui concerne le baptême. Combien de fois nous devons encore répéter cela? Si notre Seigneur a donné l'ordre missionnaire, disant que nous devons baptiser au nom. Alors, il faut aussi que cela se passe. On ne peut pas simplement comme ça faire une forme, en faire une règle, une formule. Je peux vous lire du catéchisme de l'Église catholique que cette formulation-là, c'est un document le plus ancien de l'Église catholique. Je n'ai pas besoin d'une formule catholique ou bien de l'Église anglicane ou bien orthodoxe. J'ai besoin de la parole de Dieu et j'ai besoin de la relation entre l'ordre missionnaire et son accomplissement et son exécution. Je n'ai pas besoin de ton explication et tu n'as pas non plus besoin de mon explication. Mais ensemble, il faut que ce pont soit placé pour nous, c'est-à-dire entre l'ordre missionnaire et son exécution. Et il serait encore à poser la question: est-ce que il y aurait eu dans les Écritures une seule et unique pratique qui rendrait témoignage dans les Écritures que quelqu'un de quelconque, dans un certain temps quelconque, aurait utilisé une formule au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit? Pas dans ce livre et pas avec Dieu. Et c'est pour cette raison que les choses doivent être mises en ordre. Nous ne voulons faire mal à aucun homme et blesser personne. Mais la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Et si elle ne pénètre pas, ça veut dire que ce n'était pas la parole de Dieu que nous avons prêchée. La parole de Dieu doit être tranchante et prêchée si tranchante de manière qu'elle pénètre. Comme dans Actes apôtres 7. Et deux. C'est une épée qui est tranchante des deux directions. Une épée à deux tranchants. La plupart des épées ont seulement un seul côté tranchant. Hein, l'autre n'est pas tranchant. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas comme ça, pas tranchante. Elle est à deux tranchants. Là où elle est utilisée dans n'importe quelle direction, elle tranche et elle pénètre. Et je remercie Dieu de ce que c'est sa parole qui a pénétré. Et qui a tranché, et qui a dévoilé ce qui est faux et ce qui est bien, et ce qui vient de Dieu, ce qui vient des hommes. Oui, elle pénètre, même révèle les pensées de notre cœur. Et elle sépare l'un de l'autre. Donc, dans le premier jour du déversement, de l'infusion du Saint-Esprit, des milliers de personnes se sont réunies. La première prédication devait être tenue. Pierre, toi homme de Dieu, des premières heures, c'est à toi que Dieu le Seigneur a donné cet ordre, cette autorité divine. La première prédication devait être tenue. Et voilà, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et la première bouche qui s'est ouverte a parlé sous l'onction et l'inspiration telle que l'Esprit lui donnait de s'exprimer. Répentez-vous, et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. À qui est-ce qu'aujourd'hui je peux venir avec une pratique religieuse, avec quelques gouttes d'eau sur le front, etc. Et où après on dit, maintenant tu es né de nouveau, à cause de trois gouttes sur le front. Non, et encore une fois non. Pour la nouvelle naissance, il faut qu'il y ait la semence incorruptible de la parole, telle que dans le domaine terrestre, pour une naissance naturelle, une semence est nécessaire. D'abord, la prédication d'abord suit la prédication de la parole de Dieu. C'était la semence. Et la semence a produit de son fruit. Et c'est ainsi que la réponse a suivi. Répentez-vous. Et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes du manière nouvelle ici, Dieu a Il n'a pas regardé au temps de l'ignorance. Il n'a pas regardé à tout ce temps d'ignorance où le peuple de Dieu était encore ici et là, réservé et gardé dans l'erreur. Mais maintenant, à la fin du temps de la grâce, il transmet sa parole. Et autrefois, qui écoutait les paroles de Dieu? Seulement le peuple de l'Alliance. Seulement avec le peuple de l'Alliance. Dieu a fait une nouvelle alliance. Ce sont seulement ceux-là qui aussi étaient prêts à accepter la parole de l'alliance. Et seulement eux-là étaient obligés de garder la parole de l'alliance. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. Nous avons lu, n'est-ce pas, dans Exode 34, verset. Nous avons lu verset 27. Et tous ceux qui ne sont pas une partie du troupeau véritable racheté par le sang, qui ne sont pas une partie du peuple de l'Alliance, qui ne peut pas croire ce que Paul a dit dans Éphésiens 1, verset 3, que Dieu le Seigneur nous a, avant même la fondation du monde, élu pour que nous puissions lui appartenir. Je vous pose la question, est-ce que vous croyez que Dieu vous a élu? Croyez-vous cela? Tel que notre Seigneur a dit, ce n'est pas vous qui m'avez élu, c'est moi qui vous ai élu, c'est moi qui vous ai déterminé à ce que vous puissiez aller et produire du fruit. Résumons ensemble de quoi il s'agit. Le dernier appel retentit. Vous, mon peuple, sortez, inclus tout ce qui n'a rien à voir avec Dieu et la parole de Dieu, pour que nous puissions parvenir à la perfection à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu en Christ, à la stature parfaite du Christ, comme les Saintes Écritures le disent. En cet endroit, nous ne pouvons pas, comme différentes doctrines des différentes églises le font, ou bien des églises libres, comme ça, eux, dit oui et amen à ces différentes doctrines. Mais nous ne pouvons qu'accepter l'enseignement des apôtres. C'est l'enseignement des apôtres que nous pouvons seulement accepter, car l'Église du Nouveau Testament est fondée, selon Éphésiens 2, verset 20, sur le fondement des apôtres et des prophètes, où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Et comme Paul l'écrit aux Éphésiens et Colossiens, aux Romains, parlant de ce mystère qui avait été resté caché au fils des hommes, c'est ce mystère-là que Dieu, Éphésiens 5, verset 3, Éphésiens 3, verset 5, a révélé à ses saints apôtres et prophètes, c'est peut-être par le Saint-Esprit, c'est peut-être que dans l'Église, il a établi des différents ministères. Et si aujourd'hui, et je ne veux pas me mentionner, non, je ne le fais pas, mon devoir et mon mandat, c'est d'aller dans le monde entier, à tous les peuples, les langues et les nations. Je ne prétends rien ici, mais si nous croyons, comme le dit les Saintes Écritures, alors cela va aussi ensemble que l'Église, cela a sa place à cela, que l'Église du Nouveau Testament a tous les 9 dons de l'Esprit, tous les 9 fruits de l'Esprit et tous les 5 ministères de l'Esprit. C'est le temps, mes bien-aimés frères et sœurs, que nous puissions tourner le regard d'un homme et tous regarder à Jésus-Christ. Arrêtez de regarder à un homme, mais tous regarder à Jésus-Christ qui suscite et rend la foi parfaite. Car c'est lui qui achève son église. Il a dit qu'il a bâti. Et tous, il n'a pas seulement fondé, il achève aujourd'hui. Et tous, chacun de nous, nous avons un ministère. Et nous sommes des pierres vivantes pour former l'édifice. Avons-nous tous compris cela? Car la tête va utiliser chaque membre du corps. C'est ainsi que, alors qu'il avait terminé avec sa parole, le Seigneur, dans Matthieu 13, n'est-ce pas, il a demandé, « Avez-vous compris? Notre compréhension pour les Écritures doit être ouverte dans tous les domaines et sur tous les domaines. » Pas comme ça, de manière d'un seul côté, mais dans l'équilibre, nous suivons les traces de notre Seigneur en accord avec la parole de notre Dieu. Donc, tous ceux qui ne sont pas encore baptisés de manière biblique au nom du Seigneur Jésus-Christ peuvent aujourd'hui, après cette réunion, se laisser baptiser. Faites-le aujourd'hui, car c'est ainsi que c'est écrit aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ceci est le jour que le Seigneur a fait. Ceci est le temps. Les prophètes et les apôtres eux-mêmes auront voulu bien voir et ce jour. Nous avons le privilège de vivre dans ce jour, à la fin de toutes choses, de voir la fin de toutes choses et de prendre part à la partie qui a été déterminée pour l'Église personnellement, par la grâce de Dieu. Expérimenter cela. L'appel à sortir et ensuite d'entrer, d'être appelé à sortir de toutes les églises, dans toutes les nations et à être conduit à entrer dans l'église qui est le corps du Seigneur, le temple du Dieu vivant. Bien-aimés frères et sœurs, un message sérieux, un message divin, un message glorieux, un message de l'appel à sortir et d'entrer, sortir, entrer, un message de correction. Et c'est ainsi que nous mettons notre volonté dans la volonté de Dieu. L'église du Dieu vivant est le temple du Dieu vivant. Pour que ça s'accomplisse ici, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dites simplement oui et amen. Oui et amen. C'est ainsi que cela est écrit. Et c'est ainsi que cela s'accomplisse. Que cela s'accomplisse. Et amen. Nous voulons nous lever pour la prière. Et de nouveau, nous chantons tel que je suis, sans rien de moi. Et nous invitons tous, de tout notre cœur, à chanter. Nous chantons encore, nous allons tout de suite encore chanter croissamment, mais je voudrais encore insister, tel que dans la parole d'introduction nous l'avons entendu, Dieu a manifesté sa présence, a promis sa présence à son peuple. Il a promis de faire ce qu'il n'a jamais fait sur terre. Et ça, nous l'attendons selon Exode 34, verset 10 et Éphésiens 3, verset 10. Maintenant, dans la restauration et l'achèvement de toutes choses, ce qu'il va se passer, ce qui est jamais arrivé sur terre, tel que frère Branham l'a vu dans le dernier tour, même des membres qui nous manquent à notre corps seront restitués, nous serons restitués. Que celui qui vient à l'église avec un seul bras repartira avec deux bras. Des miracles de création auront lieu, comme notre Seigneur l'a promis dans l'évangile. De Jean, chapitre 14, verset 12. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, et encore de plus grandes. Car je vais à mon Père. C'est la chose de Dieu de veiller sur sa parole, sur son peuple. Et si nous sommes son peuple qui, dans la foi, respecte sa parole, dans l'obéissance de la foi, respecte sa parole, c'est ainsi que nous témoignons ainsi être enfants de Dieu. Sous le sang de la nouvelle alliance. Et toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen par Jésus-Christ et aussi par nous, pour l'honneur de Dieu. Croyons-nous maintenant pour la délivrance, pour la guérison. Prenons Dieu à sa sainte parole et nous allons, il va la confirmer. Alléluia. Alléluia. Crois seulement. À cela, nous pouvons dire amen. Avant de poser la deuxième question, je voudrais commencer avec la première. Combien parmi nous ont déjà expérimenté notre Seigneur aussi dans leur corps, ont expérimenté une guérison du corps, Laissez-moi voir vos mains. Regardez les mains. Regardez s'il vous plaît. Regardez les mains, le frère Rousse et moi, nous pouvons élever les mains. Je pense devoir dire que c'est un encouragement dans la foi pour nous tous qui viennent aujourd'hui au Seigneur pour aussi dans notre corps expérimenter et attendant de lui une guérison dans le corps. Hier après la réunion, il y a un gentil monsieur de Prague qui est venu et qui a rendu son témoignage disant ce que Dieu a fait en lui. Bien mes frères et sœurs, hier, il y a un frère dans le bureau qui est venu et qui a rendu témoignage de ce que Dieu a fait en lui. Dieu est présent. Et ici est le point. La parole de Dieu ne peut pas revenir vide à Dieu. Les promesses produisent l'effet, doivent produire le feu. Sinon, la parole ne peut pas revenir à Dieu, si ce n'est qu'elle produit l'effet pour lequel elle a été envoyée et accomplir tout son dessein, sa volonté. Il est écrit qu'il a envoyé sa parole et il les a guéris. Aujourd'hui, nous sommes l'église du Dieu vivant. Pas des des mendiants qui se tiennent dehors et à dehors d'attente, jusqu'à que quelque chose, quelque part, tombe, comme cette femme des nations dans les jours de notre Seigneur. Nous sommes l'alliance, le peuple de l'alliance de Dieu, racheté par le sang de l'agneau, racheté par le sang de la nouvelle alliance. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur Dieu parlait et disait, je ferai une nouvelle alliance après ces jours avec vous. La nouvelle alliance a été faite et toutes les promesses sont oui et amen. À qui est-ce que nous pouvons aujourd'hui, qui nous pouvons aujourd'hui inclure dans la prière? Levez les mains, levez les mains. Amen, amen, amen. Et maintenant, nous allons tous lever nos mains. Ça n'a pas besoin d'être si haut. Et nous allons prier dans la foi. Ensemble. Ô bien-aimé Seigneur, toi, Dieu éternel, nous avons entendu ta parole et nous croyons comme le dit les Saintes Écritures. Et les Saintes Écritures disent, celui qui croit en moi, comme le dit les Écritures, de son corps couleront des eaux de vie. Bien-aimé Seigneur et Dieu, guéris, guéris maintenant, partout, partout où des hommes croient et reçoivent ta parole et les promesses. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Mon Dieu. Mon Dieu. Alléluia. Mon Dieu. Gloire et honneur soient apportés au Dieu vivant, au Dieu tout-puissant. Tu as confirmé ta parole dans tes maîtres sûrs. Tous ont été guéris. À partir de cette heure, tout ira mieux avec chacun pour lequel nous avons ici prié. Et nous croyons que tu confirmes ta parole. Alléluia. Alléluia. Nous prions particulièrement pour notre bien-aimé frère au sud, pas loin du lac de Constance. Nous prions pour lui en tant qu'église dans son entièreté. Que tu puisses maintenant le toucher dans son âme, en esprit et dans son corps. Que tu puisses le faire sortir de tout ce qui pourrait encore l'accuser, le sortir, et que avec joie, il puisse regarder au trône de la grâce où le sang de l'agneau a été apporté. En toi, bien-aimé Seigneur, il a aussi le plein pardon, la pleine réconciliation, la grâce et le salut. Et dans tes maîtres sûrs, au Seigneur, il est aussi guéri. Et ses douleurs, tu les as portées. Bien-aimé Seigneur, que cela devienne vrai, que cela soit manifesté, confirmé. Cela est vrai, que cela soit manifesté. Même si cela semble être difficile et compliqué pour les médecins, tu pars encore aujourd'hui et tu dis, je suis le Seigneur, ton médecin. Je suis le Seigneur qui te guérit. Ô Dieu, Exode chapitre 15, que cela soit manifesté pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Bénis tous ceux qui vont se laisser baptiser et bénis le reste de cette réunion et sois avec nous tous dans le Saint-Nom de Jésus. Amen. Amen.